une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle?
Billet d'Afrique de ce mois de novembre est inspiré des numéros de septembre et octobre de la revue de survie, Billet d'Afrique, et de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le renouvellement de sa mission pour le référendum au Sahara occidental, la MINURSO. France-Afrique, Emmanuel Macron ne veut rien comprendre. Dans un documentaire diffusé sur France 5 le 22 juin, Emmanuel Macron affirme une fois encore en avoir fini avec la France-Afrique. Quelques jours plus tard, le journal en ligne Afrique 21 lui a répondu, voici quelques extraits. Macron, je suis le premier président français à être né après les décolonisations. Donc, on ne va pas être enfermé dans notre passé. En 8 ans de présidence, Emmanuel Macron n'a pas changé d'antienne dès lors qu'il s'agit de parler de la relation de la France avec l'Afrique. C'est presque mot pour mot ce qu'il avait déjà déclaré en 2017. Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad. Pourtant, ceux qui ont mis la France dehors sont tous nés bien après la colonisation, les indépendances et parfois même après le président français. C'est dans le documentaire Afrique-France, le divorce, diffusé le 22 juin donc, sur France Télévisions, qu'il a donc choisi de récidiver. Ses propos montrent un président toujours aussi déconnecté, qui n'a appris aucune leçon de ses errances et qui préfère accuser les autres plutôt que de se remettre en question. À l'entendre, il serait la victime d'un système dont il aurait hérité, la France-Afrique, et qu'il aurait courageusement brisé. Mes prédécesseurs avaient progressivement changé de système et je l'ai peut-être arrêté de manière plus radicale, ce qui parfois d'ailleurs n'a pas été compris. Je l'assume, dit-il sans rire. Emmanuel Macron peut-il se désolidariser de la colonisation et de la France-Afrique ? S'affranchir de l'histoire du pays qu'il représente au motif qu'au titre personnel, il ne peut en être redevable parce que né après est d'une malhonnêteté crasse et irresponsable. On pourrait d'abord lui opposer la survivance, quoi qu'il en dise, de la France-Afrique. Afrique 21 a largement écrit sur le sujet et il suffit de lire « L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique » au Seuil, dont aucun des auteurs n'a été interrogé dans le film pour en être convaincu. Ensuite, on pourrait lui rappeler ses propres actions, dont il ne peut cette fois dire qu'elles appartiennent au passé, l'adoubement sans ciller du fils d'Idriss Déby, Itno Mahamat, après un coup d'État inconstitutionnel en 21, ses langoureuses accolades avec un dictateur sans âge qui s'attaque à toutes les voix discordantes de son pays, le président camerounais Paul Biya, Fornia Simbe, Denis Sassou Nguesso et tant d'autres compromissions comme le double standard pour condamner ou non les coups d'État de ces dernières années. Le Gabon et la Guinée, qui ne remettent pas en cause la présence française, n'ont pas été traités de la même manière que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ou encore les félicitations adressées en 2020 à Alassane Ouattara, président ivoirien réélu pour un troisième mandat. Il ne devait en faire que deux, et que le parti vient de désigner de nouveau candidat naturel pour l'élection présidentielle du 25 octobre. Le documentaire s'attarde sur le Niger, qui a connu un putsch militaire en juillet 2023. Un diplomate en poste à Niamey, à l'époque, apparaît de dos. Il affirme que sa vie a été menacée lors des manifestations contre la France qui ont suivi le coup d'État et ne dit rien d'autre. Lors de ces événements, l'ambassade de France a certes été attaquée, mais face à des militaires français surarmés et aux milliers de soldats stationnés non loin, de jeunes Nigériens munis de bâtons et de pierres risquaient-ils de faire le poids ? La réponse est non. Et pourquoi ce diplomate apparaît-il visage masqué pour, à la fin, ne rien dire? Et pourquoi ne pas rappeler que la France envisageait de chasser les putschistes par la force? Nous ne faisons plus ça, dixit le président français. Vraiment? Plusieurs journaux ont pourtant révélé les tentatives avortées de l'armée française. Puis, en novembre 2024, devant la commission de la Défense nationale à l'Assemblée, Jean-Marie Bockel, envoyé personnel du président de la République pour l'Afrique, a lui-même affirmé que 2000 hommes avaient été mobilisés en Côte d'Ivoire dans l'hypothèse d'une intervention au Niger. Si le documentaire d'Alexandra Jousset et Knessia Bolchakova rappelle certaines bévues d'Emmanuel Macron, les propos paternalistes lors de la réunion des pays du Sahel à Pau en 2019, l'épisode de la climatisation avec Roch-Marc Christian Kabore, le président burkinabé, lors de son discours à Ouagadougou, le président français n'y répond pas vraiment et balaye toute maladresse. Incompréhension, crise, divorce. Du titre du documentaire aux propos tenus par les personnes interrogées, la sémantique distillée ramène toujours à la notion de couple, à l'épouse ou l'époux éconduit, à l'amante ou la maîtresse sournoise qui détournerait l'Afrique de l'amour qu'elle nourrit naturellement pour la France. Or, si mariage il y eut, ce fut une union forcée avec viol et abus répétés. Et Emmanuel Macron de se comporter comme le mari violent qui est incapable de reconnaître les cicatrices laissées par les coups portés et encore moins de s'en excuser parce qu'il est d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique coloniale. Thierry, 1944, le combat continue. Nouvelle étape dans le combat pour la vérité sur le massacre de Thiaroy. Le 24 juin, Biram Senghor a déposé devant le tribunal judiciaire de Paris une plainte contre X et l'État français pour recel de cadavres. Poursuivant ses recherches sur Thiaroy, l'historienne Armelle Mabon a rassemblé une série d'éléments afin d'étayer cette plainte. Biram, 86 ans, est le seul descendant connu encore vivant des victimes des centaines de tirailleurs africains assassinés par l'armée française le 1er décembre 1944. Son père, Mbap Senghor, après avoir été déclaré non rentré au Sénégal, puis déserteur, s'est vu attribuer, pour le moins cyniquement, la mention « mort pour la France » en juin 2024, en même temps que 5 autres tirailleurs morts en vérité par la France. L'État français, qui pendant 80 ans n'a fait que mentir, qualifie aujourd'hui, pour des raisons diplomatiques, l'événement de massacre. Mais il se garde bien d'en reconnaître l'ampleur et sa pleine responsabilité, ou de réhabiliter et indemniser tous ceux qu'il a dénoncés et abattus comme mutins. Et il continue à faire obstruction, y compris à la fourniture des documents qui permettraient de retrouver les corps. Par sa plainte, Biram veut l'obliger à dire où son père a été enterré pour enfin pouvoir l'honorer. Au-delà, il mène aussi un combat pour obtenir justice pour tous. Comme il le déclarait à Survie en décembre 2024, « qui commet un crime est tenu de le réparer. La France a été inhumaine, elle a une dette de sang ici, en Afrique. » Au Togo, Niasingbe tue, la France coopère. Au pouvoir depuis 1967, le clan Niasingbe continue de réprimer celles et ceux qui osent, comme en juin dernier, s'opposer à sa mainmise sur le Togo, avec, encore et toujours, la complicité de l'État français. Le mois de juin 2025 a été marqué par un vaste mouvement de protestation au Togo. Dès le 5, mais plus encore à la fin du mois, d'importantes manifestations ont secoué la capitale, Lomé. Les raisons de cette colère populaire, exprimées surtout par la jeunesse togolaise, le coût de la vie, des arrestations de voix critiques du régime, en particulier celle du rappeur Aamron qui avait appelé aux premières manifestations. Il a été libéré le 21 juin. Mais surtout la réforme constitutionnelle adoptée en 2024. Rappel des faits. Le 19 avril 2024, un parlement monochrome votait une nouvelle loi fondamentale taillée sur mesure pour Faure Gnassingbé, 59 ans, à la tête du pays depuis 20 ans, après avoir succédé à son père, lui-même resté 38 ans au pouvoir. En mai dernier, le président de la République est ainsi devenu président du Conseil des ministres, fonction qui concentre désormais tous les pouvoirs. Un changement pensé avant tout pour permettre au dictateur togolais de se maintenir aux affaires sans limite de temps. Comme à son habitude, le régime a violemment réprimé les manifestations déclarées illégales. Dès le 17 juin, Amnesty International alertait sur des cas de mauvais traitements et même de torture sur des manifestantes et manifestants interpellés par les forces de sécurité togolaises. Le 29 juin, des opérations de la société civile réunies dans le Front citoyen Togo Debout dénonçaient dans un communiqué des dizaines d'arrestations, des dizaines de blessés, dont plusieurs graves, et au moins 7 morts, dont des mineurs. Le gouvernement en reconnaîtra finalement 5 par noyade. Face à cette nouvelle démonstration de force sanglante du clan Gnassingbé, la France n'a pas moufté. Il faut dire qu'à l'heure où Paris subit quelques déboires au sein de son ancien précaré africain, il s'agit de ne pas se mettre à dos un allié de longue date, surtout au moment où celui-ci se rapproche dangereusement des juntes burkinabées, nigériennes et maliennes en rupture avec Paris et envisage même de rejoindre leur alliance des États du Sahel. Sans doute la France rechigne-t-elle également à mettre en lumière sa coopération sécuritaire avec le Togo. Rappelons qu'elle forme et arme depuis longtemps l'appareil répressif du régime Gnassingbé, avec lequel elle a notamment signé un accord de partenariat de défense en 2011, accord jamais dénoncé depuis. Aucune forme ou fourniture de matériel n'aurait cependant eu lieu depuis le début de l'année, assure-t-on du côté des autorités françaises. Mais Paris n'est pour rien dans cette pause, ou du moins ce ralentissement, dans la coopération sécuritaire entre les deux pays. Il semblerait que ce soit Lomé qui ne soit plus très demandeur. Même boudé, l'État macroniste ne dévie pas de sa criminelle ligne france-africaine. Texte de Benoît Gaudin. Non, l'armée française n'a pas quitté l'Afrique. Un article récent du général Pascal Lanny, chef du commandement pour l'Afrique, CPA, le confirme et présente même Non, l'armée française n'a pas quitté l'Afrique. Un article récent du général Pascal Lanny, chef du commandement pour l'Afrique, CPA, le confirme et présente même l'état actuel du dispositif militaire français sur le continent. Le retrait forcé de l'armée française du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad, puis du Sénégal entre 2021 et 2025 a engendré un regain de commentaires sur la fin de la France-Afrique et parfois des contresens alimentés par le président de la République lui-même. Non, la France n'est pas partie de sa propre initiative en raison de la nature antidémocratique des régimes issus des coups d'État militaires, pas plus qu'elle n'a choisi volontairement d'abandonner ses bases au Tchad et au Sénégal. À l'inverse, contrairement aux raccourcis un peu rapides de certains journalistes, la rétrocession des bases militaires en Côte d'Ivoire et au Gabon procède bien d'une concertation avec les autorités françaises et même des pressions de ces dernières sur les présidents Ouattara et Oligui Nguema, initialement réticents. Conclusion plus ou moins explicite mais assez largement partagée, l'impérialisme français, en particulier dans sa composante militaire, n'aurait plus cours en Afrique. Il ne s'agit pas de nier l'importance historique du processus qui a conduit à une réduction drastique de la présence militaire française, qui traduit un rejet généralisé de l'ingérence française parmi les populations africaines. Mais il faut comprendre que les autorités politiques et militaires françaises n'ont toujours pas pris la mesure exacte de ce rejet, ni renoncé à exercer une influence qui, pense-t-elle, participe de la puissance et de la grandeur de la France. Un article du général Pascal Lanny, chef du commandement pour l'Afrique, CPA, récemment créé et publié dans le dossier « L'Afrique face aux mutations stratégiques » du numéro d'été de la revue Défense nationale, numéro 882, vient opportunément nous le rappeler. Intitulé « S'adapter aux réalités d'aujourd'hui et entretenir nos partenariats de demain », l'article décrit le dispositif militaire français actuel en Afrique centrale et de l'Ouest, sa logique et ses ambitions. La transformation qui a eu lieu ne relève ni d'un désengagement, ni d'une diminution de la coopération, et encore moins d'une rupture, explique le général. Elle a été mise en œuvre pour tenir compte de l'évolution du champ des perceptions et du contexte politique et stratégique global et remédier à notre vulnérabilité dans le champ informationnel. Le rejet de la présence française est en effet surtout mis sur le compte de la désinformation menée par les adversaires de la France, d'où la nécessité d'un changement de modèle, une empreinte plus légère, gagnant en discrétion et en agilité, tout en pouvant répondre aux attentes du partenaire dans les domaines clés où l'expertise française est reconnue. C'était une citation. Les armées françaises renoncent ainsi à des bases militaires, installées au cœur des capitales, facilement bloquées par une foule mobilisée sur court préavis. Elles déploient désormais des détachements temporaires à géométrie variable, modulables, selon les besoins des partenaires. Des détachements de liaison interarmée, c'est DIJA, temporaires qui peuvent en réalité être permanentes comme en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Il s'agit de passer d'une logique de stock à une logique de flux. C'est aussi une citation. Le commandant pour l'Afrique remplace les quatre états-majors déployés à Abidjan, Libreville, Dakar et N'Djamena et a pour mission de planifier et conduire des opérations dans une zone de responsabilité permanente, ZRP. L'action du CPA est orientée vers quatre objectifs majeurs, la connaissance et l'anticipation, l'influence et la lutte informationnelle, la consolidation du partenariat militaire opérationnel et la mise en œuvre d'une stratégie d'accès indispensable à la liberté de manœuvre en cas d'intervention, opération extérieure, évacuation de ressortissants. On trouve donc confirmation que l'armée française n'a nullement renoncé à conduire des opérations extérieures, les OPEX, et à s'ingérer militairement dans les conflits africains si l'opportunité se présente. Pour le rendre possible, la France entend apparaître comme un partenaire concurrentiel et plus fiable que ses rivaux. L'approche française est plus globale et déclinée en projets structurants, de l'élaboration de doctrines à la fourniture d'équipements et la mise en place d'un soutien dans la durée, assure le général. L'armée française entend également compenser la diminution de ses effectifs par un renforcement de sa coopération et des formations, qu'il s'agisse d'une augmentation de places disponibles chaque année dans les écoles militaires françaises ou d'une valorisation en Afrique du réseau de 22 écoles nationales à vocation régionale, formant chaque année plus de 3000 élèves issus d'une trentaine de pays. Sorte d'académie militaire française sur le sol africain. Précisons pour finir que l'article ne mentionne pas le maintien d'une base militaire importante à Djibouti, assortie d'un accord de défense à l'ancienne. Dispositif officiellement dédié à la protection des intérêts français dans la zone Indo-Pacifique, mais dont le président Macron a prévenu qu'il pourrait être utilisé comme point de projection pour certaines de nos missions africaines. texte de Raphaël Granvaux.
Mathurine la patronne. Vivier Régnier à Lyon. Maman Michel Régnier.
Jugeons la Socfin. Socfin, société opérant en Afrique et en Asie, propriété des groupes Bolloré et Fabry, a toujours contesté le bien fondé des plaintes déposées à son encontre pour violation du droit du travail, accaparement de terres, déplacement de villageois, destruction de sites sacrés, dégradation de l'environnement ou encore violence sexuelle. Les résultats que viennent de livrer 11 rapports de Earthworm Foundation, vérifiant 139 plaintes dans 12 de ces plantations pour la plupart africaines, sont accablants. Ces plaintes sont à 59% fondées ou partiellement fondées et à 85% bien de la responsabilité de la Socfin. Des conclusions d'autant plus significatives que la Socfin est membre d'EF, c'est-à-dire Earthworm Foundation, qui lui vend des conseils en gestion des questions sociales et environnementales. Devant l'ampleur des plaintes et protestations populaires, c'est elle-même qui lui a confié l'examen des plaintes dans une vaine tentative de se disculper. Une dépendance qui soulève des questions critiques, pointe 33 organisations de défense de la nature et des droits humains, un communiqué consultable sur grain.org. Elle doute aussi des promesses de la Socfin de résoudre maintenant et par elle-même ces problèmes qui remontent à plusieurs décennies. Nul doute qu'il faudra en effet encore bien des mobilisations et notre solidarité pour contraindre Bolloré et les siens à respecter les droits humains et environnementaux.
Le Parisien, Dr Gobanda.
Au Sahara occidental, sans surprise, le Conseil de sécurité vient de proroger le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental, la MINURSO, jusqu'au 31 octobre 2026. Sans trop de surprise non plus, puisque les États-Unis en étaient le porte-plume, le texte comporte le retour de la notion d'autonomie que le Maroc tente d'imposer comme une nouveauté dans la résolution du conflit. Retour parce que cette option du référendum avait été discutée en 2007 suite à la demande du Maroc. Le référendum à organiser aurait alors proposé trois choix au peuple sahraoui : intégration de son pays au Maroc, son colonisateur, ou indépendance ou autonomie du peuple sahraoui sous houlette marocaine. Le peuple sahraoui, par la voix de son représentant, le Front Polisario, avait accepté cette proposition. Et le Maroc avait finalement refusé l'organisation du référendum à trois options. Beaucoup de bruit pour rien de 2007 à 2026. Oui ou non, rien ou le temps qui passe et permet le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental et moult tentatives d'acter le fait accompli de la colonisation militaire comme légale. Pour cette année, de nouveaux renouvellements du mandat de la MINURSO par le Conseil de sécurité, 34e année sans résultat, il semble, c'est le mot « autonomie » qui a été choisi, sans aucune mention de la proposition sahraoui similaire, le pacte d'association libre, qui, selon les responsables sahraouis, pourrait ressembler à la proposition du Maroc. L'orchestration de nombreux médias dans le monde répète à gorge déployée le mot « autonomie » comme si l'ONU avait le moyen de l'imposer comme solution de paix. Un paradoxe quand les cours juridiques internationales africaines et européennes répètent arguments massifs à l'appui que l'autodétermination du peuple sahraoui est incontournable parce que ce peuple et son territoire n'ont rien à voir, ni à faire peut-être, avec son colonisateur, le Maroc. Il manque dans ces nombreux textes superficiels et démagogiques quelques points intéressants, par exemple que l'ONU répète qu'il faut le référendum d'autodétermination. Et puis, la survie de plus de 200 000 Sahraouis dans les camps de réfugiés sur terre algérienne, une république et toutes ses institutions en exil que bientôt 50 ans n'ont pas réussi à dissoudre, le mur de 2700 km de long qui coupe le Sahara occidental en deux, et d'autres peccadilles. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donc prorogé le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental jusqu'au 31 octobre 2026, sans le vote de l'Algérie. Et voilà le communiqué de presse de l'ONU, suivi du texte de la résolution. Cela fait quelques redondances, mais la source est là. Le Conseil de sécurité a adopté par 11 voix pour et les abstentions de la Chine, de la Fédération de Russie et du Pakistan, la résolution 2797, entre parenthèses 2025, par laquelle il proroge le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINURSO, jusqu'au 31 octobre 2026. Comme l'an dernier, l'Algérie n'a pas pris part au vote. Au terme de ce texte présenté par son porte-plume, les États-Unis, le Conseil appuie pleinement les efforts que font le secrétaire général et son envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour parvenir au règlement juste, durable et mutuellement acceptable d'un différend qui affecte le Maghreb depuis plus de 50 ans. L'Algérie a longuement expliqué sa non-participation au vote en critiquant un texte qui ne reflète pas la doctrine onusienne en matière de décolonisation, puisque le peuple du Sahara occidental n'a toujours pas la possibilité de décider de son avenir. Citant l'ancien président américain Wilson, elle a souligné que le principe d'autodétermination n'est pas un simple mot, c'est un principe d'action. Pour l'Algérie, la résolution a le défaut rédhibitoire de proposer un cadre étriqué de négociation qui met nettement en exergue les ambitions territoriales d'une partie aux différents, tout en passant sous silence les aspirations légitimes du peuple du Sahara occidental. Après avoir fait observer que le texte ignore les propositions que le Front Polisario a transmises au secrétaire général de l'ONU et à son envoyé personnel, l'Algérie a estimé que la résolution adoptée aujourd'hui suscite les interrogations juridiques les plus sérieuses. Si le cadre de négociation proposé était dupliqué dans d'autres zones de conflit, l'ordre international même s'en trouverait fissuré. La Fédération de Russie n'a pas dit autre chose lorsqu'elle a déploré que les États-Unis ont, dans une démarche de cow-boy, utiliser le Conseil de sécurité pour privilégier une stratégie nationale. Ce texte, a-t-elle tranché, est une sorte de monologue qui politise la recherche d'une solution mutuellement acceptable et dont la substance et les paramètres se trouvent seulement dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Nous nous sommes abstenus, a expliqué la Fédération de Russie, pour ne pas bloquer la prorogation du mandat de la MINURSO et donner, ce faisant, une chance au processus de paix. Nous nous sommes également abstenus, ont embrayé la Chine et le Pakistan, en raison des déséquilibres persistants du texte et malgré les efforts d'ouverture de la délégation américaine. Nous voulions aussi souligner, ont-ils expliqué, que les efforts de médiation et de paix de l'ONU ne connaîtront le succès qu'avec l'implication sur un pied d'égalité de toutes les parties, et ce, sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, des principes de la Charte des Nations Unies et de la doctrine onusienne en matière de décolonisation. Les États-Unis ont, à l'inverse, salué un texte historique capable d'ouvrir sous l'égide de l'ONU une nouvelle ère de paix et de prospérité dans la région. Ils ont dit avoir consenti des efforts sans précédent pour intégrer les propositions de tout le monde et ont aussi insisté sur le fait que la version finale de la résolution reflète la détermination du président Trump à appuyer la recherche de la paix au Sahara occidental, conformément au plan d'autonomie proposé par le Maroc le 11 avril 2007 au secrétaire général comme unique base d'un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend. La France s'est voulue plus claire encore, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue et notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc est clair et constant, a-t-elle déclaré. Pour le Royaume-Uni, la résolution marque le début d'un processus conscient que le moment est venu de régler un conflit vieux de 50 ans. Enfin, la Slovénie, la République de Corée et le Danemark ont souligné que toute solution à venir devra tenir compte du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et que l'année prochaine, l'ensemble des parties devra coopérer de manière accrue avec l'envoyé personnel du secrétaire général. Voici pour le communiqué de presse de l'ONU. Toutes les délibérations sont à retrouver sur le site du Conseil de sécurité. La résolution et son texte sont donc le Conseil de sécurité rappelant et réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur le Sahara occidental, appuyant pleinement les efforts que font le secrétaire général et son envoyé personnel Staffan de Mistura pour appliquer les résolutions du Conseil et faire avancer le processus politique, notamment par la poursuite des consultations que l'envoyé personnel mène avec le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie, pour faire fond sur des progrès accomplis, réaffirmant sa volonté d'aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui soit fondée sur le compromis et conforme aux buts et principes énoncés par la Charte des Nations Unies, dont le principe de l'autodétermination, et notant le rôle et les responsabilités des parties à cet égard, soulignant qu'il est urgent pour les parties de mettre en œuvre une solution à ce différend, ayant conscience que la dynamique est lancée et qu'il faut agir vite, et considérant le rôle important que joue la MINURSO en aidant l'envoyé personnel à parvenir à une solution politique mutuellement acceptable, prenant note à cet égard du soutien exprimé par de nombreux États membres en faveur du plan d'autonomie proposé par le Maroc et présenté le 11 avril 2007 au secrétaire général comme la base d'un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend, affirmant qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait être une solution des plus réalistes, et se félicitant de l'engagement pris par les membres du Conseil de favoriser les progrès, accueillant avec satisfaction l'initiative prise par l'envoyé personnel de réunir les parties pour poursuivre sur cette lancée et saisir cette occasion sans précédent d'instaurer une paix durable, exhortant les parties à apporter tout l'appui voulu aux négociations et à y participer de bonne foi, et se félicitant de la disposition des États-Unis à accueillir les négociations dans le cadre de la mission menée par l'envoyé personnel pour parvenir à une solution pour le Sahara occidental et la région, soulignant qu'il importe que le cessez-le-feu soit respecté et que soit évité tout acte susceptible de compromettre le processus politique, notant avec une grave préoccupation l'insuffisance de fonds alloués aux réfugiés sahraouis et engageant vivement les donateurs à verser des fonds supplémentaires tout en demandant à nouveau que les réfugiés soient dûment enregistrés. Ayant examiné le rapport du secrétaire général en date du 30 septembre 2025, le Conseil de sécurité, donc, 1. Décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2026. 2. Appuie pleinement les efforts que font le secrétaire général et son envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend, conformément à la Charte des Nations Unies, et attend avec intérêt de recevoir les propositions constructives que lui feront les parties au regard du plan d'autonomie. 3. Demande aux parties de participer aux discussions sans conditions préalables et sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable qui assure l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Considère qu'une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalistes et encourage les parties à faire part de leurs idées à l'appui d'une solution définitive mutuellement acceptable. 4. Invite les États membres à apporter l'aide et le soutien approprié à ces négociations et aux efforts de l'envoyé personnel. 5. Prie le secrétaire général de lui faire régulièrement des exposés à chaque fois qu'il le jugera utile au cours de la période du mandat et le prie également de présenter dans les 6 mois suivant la prorogation du mandat un examen stratégique relatif au futur mandat de la MINURSO en tenant compte de l'issue des négociations. Et 6. Et dernier, décide de rester saisi de la question.
الدنيا ما تات كيف كانت والدار مرار الدار مرار حس مريم جابت ردات عقرض الهول عقرض الهول للشوايا حس مريم جابت ردات ردات عقرض الهول للشوايا حس مريم جابت ردات عقرض الهول للشوايا ايه يا ويشي لقوم عن مبارك